Alors depuis quelques semaines, François Hollande et Manuel Valls partent d'une reprise, certes modérée, mais qui pointe le bout de son nez. Est-ce seulement un élément de communication ou une réalité ?
Oui, en fait, en quelques mois, l'espoir d'une reprise est revenu grâce à la conjonction d'une série de facteurs favorables que je vais vous donner en vrac. On a une dépréciation de l'euro, une baisse du prix du pétrole, la Commission européenne qui accorde au moins pour l'année 2015, voire même peut-être pour 2016, un répit sur les déficits, un État qui emprunte à taux d'intérêt négatif et des entreprises qui s'endettent à un taux proche de zéro. C'est pour ça, par exemple, que le CAC 40 est en train de s'envoler.
Et donc, on a un retour de la confiance ?
Oui, les chiffres de croissance devraient même être révisés positivement, ce qui est une surprise. La croissance qui était prévue pour l'année 2015 était de 1%, ce qui est pas grand-chose. Elle sera plus probablement sous l'effet de ces chocs positifs de 1,5% et elle pourrait même être légèrement supérieure. Cela risque néanmoins de ne pas être suffisant pour faire baisser le chômage. Xavier Thimbault, qui est le directeur du département Conjoncture et Prévision de Sciences Po et que je vous invite à écouter l'interview que nous avons réalisé de lui lors des journées de l'économie, estime qu'il faut au moins une croissance de 1,5% pour faire baisser le chômage. En fait, c'est un phénomène bien connu des économistes. Le chômage ne décroît pas tout de suite dès lors que l'on a de la croissance. Il faut dépasser un certain seuil, par exemple pour la France, qui serait de 1,5%. En fait, c'est la conséquence de la destruction des capacités de production lors d'une crise. Les entreprises licencient en dernier recours. Et si elles le peuvent, elles vont préférer s'ajuster sur le capital. Donc, elles ne vont utiliser qu'une partie de leur capital pendant la crise et avant même arrêter d'investir. Et lorsque la reprise arrive, comme c'est le cas actuellement, elles recommencent à utiliser d'abord à pleine capacité leur capital et seulement une fois pleinement utilisé, se remettent à embaucher et investir.
Et c'est la raison pour laquelle François Hollande, du coup, est plutôt prudent dans le domaine de l'emploi.
Oui, par exemple, les chiffres pour le mois de février 2015 ne sont pas très bons. On a à nouveau une baisse de l'emploi. Surtout que cela fait 7 ans que l'on est en crise et que les capacités de production, ce que je vous disais, sont 12% inférieures à celles de 2008. Bon, revenons un instant aux causes de cette reprise. Ce sont en fait principalement des chocs de demande positifs. La baisse du prix du pétrole, par exemple, a un effet bénéfique sur le pouvoir d'achat des ménages. Bon, c'est un choc de demande, mais aussi en fait, va provoquer un choc d'offre puisqu'elle abaisse les coûts des entreprises. Comme le pétrole est un coût pour les entreprises, la baisse réduit leur coût. Et cette baisse des prix du pétrole intervient en fait au meilleur moment possible. En effet, la politique monétaire actuelle fait chuter la valeur de l'euro par rapport au dollar, c'est-à-dire en fait provoque une dépréciation de l'euro.
Ah oui, c'est le canal du taux de change. Alors on continue l'autopromo, hein. T'as vu, j'ai bien écouté les TINA qui concernent la politique monétaire.
Oui, je vois que tu retiens bien, merci Clément. Le canal du taux de change est un vecteur de croissance qui peut être important. Par exemple, dans le cas français, une dépréciation de 10% de l'euro augmente les exportations des producteurs implantés en France de 7%. Il ne faut néanmoins pas surestimer ce canal non plus, puisqu'il ne joue que sur les productions hors zone euro. Ça ne va pas jouer avec l'Allemagne, avec la Grèce, avec l'Italie. Ce sont les principaux partenaires de la France qui sont européens. Mais toujours est-il que cela va avoir un effet important vis-à-vis de nos exportations avec la Grande-Bretagne, qui est un de nos principaux partenaires.
Mais du coup, pourquoi la baisse du prix du pétrole arrive au meilleur moment ?
Quand votre monnaie se déprécie, vos importations vous coûtent plus cher. Il y a 3 mois, vous pouviez acheter un bien qui valait 1 dollar avec 80 centimes. Maintenant, il vous coûte 95 centimes d'euros. Donc le coût des importations a augmenté. La dépréciation n'est donc pas une arme à prendre à la légère. C'est un vrai transfert de richesse des ménages les plus pauvres qui vont payer les biens de gamme qui sont en général importés. Ces biens de gamme, ils vont les payer plus cher. Et donc transfert des ménages vers les entreprises exportatrices. On s'attend à ce que cela crée des emplois, mais cela a comme premier effet d'augmenter les marges des entreprises exportatrices et la création d'emplois ne viendra qu'après coup. La dévaluation est donc équivalente à une baisse du salaire réel des ménages et il ne faut pas croire que c'est forcément plus désirable. Je disais, la baisse des prix du pétrole en fait intervient au meilleur moment parce qu'elle compense la hausse de la facture des importations. Donc ça fait passer en fait la pilule.
Et tu disais que le premier effet était d'augmenter les marges des entreprises exportatrices. Et est-ce que cela va créer de l'emploi ?
Alors, là, les facteurs que j'ai énoncés, dépréciation de l'euro, etc., sont principalement des facteurs de demande. Et cela devrait en effet faire reculer le spectre de la déflation, d'autant plus que l'engagement de la BCE pour augmenter l'inflation est crédible. Mais l'inflation anticipée reste faible. Le problème avec la situation française, c'est que problème d'offre et de demande coexistent. Pour que les facteurs énoncés plus tôt soient bénéfiques et permettent une véritable reprise, il faut que la hausse de la demande incite les entreprises à investir. C'est très important. Et ces facteurs favorables pour que les entreprises investissent sont réunis. Par exemple, GDF Suez a emprunté sur 20 ans à 1,5%. C'est un taux extrêmement bas, c'est génial pour investir. Mais les problèmes structurels, certains problèmes structurels qu'on connaît bien, n'ont en fait pas été traités du tout. Par exemple, la formation professionnelle, on continue à gâcher 32 milliards par an parce qu'elle ne bénéficie qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Les logements sont encore hors de prix. On n'a toujours pas de gain de productivité, par exemple. Les universités françaises continuent à manquer d'argent.
Donc si on veut transformer l'essai, il va falloir agir.
Oui, et le gros danger, c'est un double dip, une rechute après une reprise molle. Par exemple, pour l'instant, les États-Unis acceptent la dévaluation de l'euro et vont même augmenter leur taux d'intérêt en juin, ce qui devrait accentuer cette dépréciation. Mais l'acceptation d'un dollar fort peut changer, puisque les derniers indicateurs économiques publiés aux États-Unis ne sont pas trop bons. Donc 1,5% de croissance cette année, c'est bien. C'est même surprenant, mais si on veut que ça dure, il va falloir réformer notre marché du travail, notre formation. Il y a donc des réformes qui pourraient à la fois apporter justice et efficacité, comme celle de la formation professionnelle. Que l'on ait des chocs exogènes favorables qui nous donnent des bouffées d'oxygène nécessaires, c'est bien, mais il faut ensuite, comme tu disais, transformer l'essai, c'est-à-dire faire des réformes structurelles. Et là, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités.